Une semaine d'actualité. Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue. Comme chaque samedi, nous allons revivre les temps forts de la semaine écoulée à travers les reportages des journalistes et correspondants de RFI. Nous allons parcourir le monde de Séoul à Beyrouth en passant par Washington. Et pour commenter cette actualité, nous avons le plaisir d'accueillir Fabrice Dalméda. Bonjour.
Bonjour Chantal Leroux.
Vous êtes historien, professeur à l'université Paris 2 Panthéon Assas. Vous animez chaque mois sur France O l'émission Histoire d'Outre-mer et vous publiez Nelson Mandela dans la collection Que sais-je. Alors vous le dites vous-même dès la première page, sur Mandela, tout semble avoir été écrit. Du coup, est-ce que vous avez pris comme un défi de raconter, de décrypter la vie de l'ancien président sud-africain ?
Ben oui, mon idée c'était de proposer au lecteur, vraiment en toute modestie, un petit livre qui fasse une synthèse. Parce que Mandela lui-même, je crois, a été le meilleur auteur sur sa propre vie dans son livre hein, « Le long chemin vers la liberté ». Qui est vraiment juste génial, qui pour moi est une source évidemment, mais il y avait des petits oublis, des petites choses qu'il avait gommées, donc voilà, j'ai essayé de réintroduire une vie et de la nuance.
Vous avez rencontré Mandela ?
Alors je l'ai croisé, je l'ai vu en fait, mais on n'a pas pu lui parler parce que c'était en 2011 et il était très très protégé par sa famille parce qu'il commençait déjà à avoir des troubles de la mémoire et on avait rencontré un de ses amis, un de ses premiers avocats et il nous avait dit écoutez Nelson en ce moment c'est compliqué, il commence une phrase aujourd'hui et il peut la finir dans les années 50 donc on a compris que la famille le protégeait mais on était emmené par chez lui donc à Houghton dans sa grande maison par son petit-fils Ndaba Mandela, qui maintenant est musicien aussi, et voilà. Et donc on l'a vu, mais on n'a pas pu l'approcher.
Et qu'est-ce que ça a changé cette vision de Nelson Mandela, un peu affaibli, un peu fragile, par rapport à l'image que vous en aviez auparavant ?
Ben moi j'étais, vous savez, je suis un enfant des politiquement des années 80, donc de ceux qui se sont mobilisés, ont vibré dans l'idée de la libération de Mandela. Quand il est sorti de prison en février 90, on était tous enchantés et on avait cette image-là, un petit peu d'un type fort, d'un type capable de parler, voilà. Et tout d'un coup. C'était un vieillard, c'était un très très vieux monsieur, un peu fragile, voilà, avec un visage un peu défait. Donc c'était cette image-là, l'idée au fond qu'il y avait une fragilité. Et de l'autre côté, quand j'ai commencé à travailler sur Mandela, il y a déjà bien longtemps, il y avait ces photos, vous savez, où on le voit jeune boxeur. Et c'est un type qui a une carrure, qui a des bras, des cuisses.
En Marcel.
Voilà, mais qui est super musclé, puis qui a une gueule un peu de, voilà, une gueule dure, quoi. Pas du tout l'air souriant du chef d'État qui va devenir un petit peu le bon grand-père de la nation. Et pas du tout non plus ce vieil homme fatigué, croisé au détour d'une maison. Donc, voilà, ça m'a donné cette dimension des divers états, en quelque sorte, de Mandela.
Alors, pourquoi avez-vous choisi de vous intéresser aux failles, aux erreurs commises par Nelson Mandela, alors que ce n'est pas facile de toucher à une icône.
Bah en fait, il se trouve que c'est un de ses anciens compagnons de détention qui s'appelle Mac Maharaj, qui a été avec lui à Robben Island, qui ensuite a été même ministre de l'Afrique du Sud, ministre sous Mandela et après. Et Mac Maharaj disait « Nelson Mandela is not Mother Teresa ». Nelson Mandela n'est pas Mère Teresa. C'est-à-dire Nelson Mandela n'est pas un saint. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de se dire, quand on a un homme qu'on admire, de faire cet exercice un petit peu de défiance par rapport à soi-même et de se dire, ben c'est quoi les erreurs, c'est quoi les failles. Et au fond, le fait qu'on ait croisé comme ça un être humain, et ben ça m'a ramené à cette dimension-là, à me dire, peut-être qu'il y a d'extraordinaire chez lui, c'est que c'était un être humain en fait, et pas du tout un être aussi exceptionnel que je le pense. Et donc c'était intéressant de chercher les moments où j'avais l'impression qu'il était comme moi. C'est-à-dire qu'il était faillible.
Alors, dans les années 60, il y a eu débat au sein de l'ANC sur le recours à la lutte armée. Mandela était pour et son avis l'a emporté. Pourquoi pensez-vous que c'était une erreur à ce moment-là ?
Moi, je reste convaincu que quand on prend les armes dans les années 60, qu'on est dans un pays capitaliste, on va tout de suite être projeté dans les bras des communistes. Et c'est ce qui s'est passé. Et à partir de ce moment-là, il se retrouve avec cette machine formidable du monde occidental, parce qu'il faut voir ce que ça veut dire en termes de répression, d'avoir la CIA contre soi, d'avoir les services secrets du monde entier contre soi. Et donc, je pense que ça a retardé la lutte. D'autant plus que, rappelez-vous, quelques temps plus tard, il bascule dans la lutte armée, mais le chef Lutuli, qui était le président de l'ANC, d'une ANC contrainte à la clandestinité par ce pouvoir blanc stupide, mais le chef Lutuli obtient le prix Nobel. Le prix Nobel de la paix. Et ça, c'est énorme. C'était un signal envoyé à l'Afrique du Sud qui leur disait « Nous savons que vous êtes des racistes. Nous savons que vous êtes les descendants du régime nazi. » Et ça, c'est intolérable. Et le problème, c'est que comme de l'autre côté, Mandela passe dans la clandestinité, crée la branche armée militaire et passe à l'action, fait les premiers attentats. Des attentats qui n'ont rien à voir avec ce qu'on faisait en Algérie, par exemple. Le but, c'était pas de tuer du monde. Le but, c'était de détruire les infrastructures de l'État capitaliste. Mais n'empêche que tout de suite, il est perçu par les services secrets comme le dangereux guérilleros en puissance. Et là, ça bloque tout le processus et je crois que ça a quand même retardé le basculement du monde occidental dans l'opposition au régime raciste sud-africain.
Est-ce que c'est le massacre de Sharpeville qui a vraiment convaincu Mandela que le recours, enfin que la lutte pacifique n'aboutissait à rien, ne donnait pas de résultats?
Ben, c'est-à-dire que c'est par étapes. Comme au début, la lutte pacifique, la désobéissance civile marche d'une certaine manière. Vous vous souvenez, ils font cette grève en 1946 pour les bus, pour l'abaissement des prix des bus dans le faubourg d'Alexandra, et ça marche. Et ils refont ça quelques années plus tard, ça marche moins bien, mais ils ont le sentiment que la désobéissance civile, c'est un moyen pacifique, c'est Gandhi, que ça peut fonctionner. Gandhi avait réussi, rappelez-vous, même avant la Première Guerre mondiale, à faire reculer le pouvoir sud-africain. Donc, il y a cette idée-là. Et puis, ben, par épisode, ils se rendent compte que ça marche moins bien, que plus ils avancent dans cette voie-là, plus l'État sud-africain renforce son appareil de répression, et met en prison, met hors la loi, lance des procédures, lance des procès. La lutte par le droit leur paraît plus difficile, plus aléatoire. Donc Mandela se dit, il faut passer à autre chose. Il faut décaler d'un cran. Et ce cran-là, c'est celui que les autres réussissent ailleurs en Afrique. C'est le pouvoir FLN qui fait douter les Français. C'est le pouvoir égyptien qui a fait reculer les Anglais et les Français. C'est le pouvoir congolais, les indépendances des années 60. C'est le pouvoir ghanéen, avec Kwame Nkrumah. Donc il voit ces gens-là qui ont réussi quelque chose, parfois par négociation, parfois par la force. Il se dit c'est notre tour, on doit y aller, il est temps de pousser le bouchon.
Sept jours dans le monde.
Fabrice Dalbeda, nous allons reparler tout à l'heure de votre livre Nelson Mandela, mais je vous propose maintenant de remonter le fil de la semaine avec des retrouvailles très émouvantes. 89 Sud-Coréens très âgés ont franchi lundi la frontière pour se rendre en Corée du Nord. Choisis par loterie, ils ont pu revoir des membres nord-coréens de leur famille, dont ils étaient séparés et sans nouvelles depuis la guerre de Corée il y a 70 ans. Frédéric Ojardias à Séoul.
Ce sont des retrouvailles baignées de larmes, comme celle de Madame Lee Kumson, 92 ans, qui embrasse et refuse de lâcher son fils nord-coréen âgé de 71 ans. La dernière fois qu'elle l'avait vu, il n'avait que 4 ans, elle était sans nouvelles de lui depuis. Madame Han Shinja, 99 ans, a elle retrouvé ses deux filles, laissées au nord au début de la guerre en 1950. D'autres ont rencontré pour la première fois un frère, un neveu, un cousin. Beaucoup de ces personnes très âgées, endimanchées, pleurent en se tenant la main. Ces retrouvailles se déroulent dans la salle de réception d'un hôtel en Corée du Nord. Aucune intimité, les familles sont entourées de caméras, de télévision sud-coréenne et d'observateurs nord-coréens. À part le déjeuner demain, toutes les autres rencontres prévues jusqu'au retour au sud mercredi auront lieu en public. Pyongyang interdit ensuite tout échange de lettres ou de coups de fil. Ces familles enfin réunies après des décennies d'attente ne pourront sans doute jamais reprendre contact.
Fabrice Dalbeda, ces réunions familiales officielles sont les premières depuis 3 ans. On peut se réjouir de ce nouveau signe de détente entre les deux Corées, ou est-ce que c'est avant tout une opération de communication orchestrée par Pyongyang?
Ah, il y a toujours cette double dimension, parce que c'est vrai que le déchirement de la guerre de Corée, faut quand même se remémorer ce que ça a été, hein. À partir de 1950 et jusqu'en 1953, des bombardements de masse, des réfugiés, un déplacement de population massif, Bref, ça a été un déchirement énorme. Et puis ensuite, cette séparation en deux États. On a vécu un truc un peu pareil, nous, en Europe, hein, avec l'Allemagne, la séparation entre Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest. Donc, quand on se représente ça, la violence que c'est pour les populations et pour les familles, il y a toujours cet aspect dramatique. Et c'est vrai que c'est très émouvant. On l'a entendu, hein, pour ceux qui l'ont pu, les familles, l'émotion, hein, elle est vibrante. Et puis, de l'autre côté, il y a cet État paradoxal, violent, de Corée du Nord, qui maintient sa population malgré tout dans un niveau de vie extrêmement bas, l'un des plus bas de l'Asie. Avec, faut garder ça présent à l'esprit toujours. Hein. C'est une population qui a rapetissé. C'est rare dans l'histoire de l'humanité, une population qui rapetisse. C'est-à-dire que le Coréen du Nord aujourd'hui est plus petit qu'il l'était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tellement ils sont mal nourris. Donc il faut penser à ça. Et donc il y a cette dimension d'un État criminel, là il y a cette ouverture, c'est un pari, c'est le pari de Donald Trump, on pourra en discuter, l'idée que ça va faciliter la décrispation et finalement déboucher sur une dénucléarisation de la péninsule. Mais en même temps, il faut pas sous-estimer la réelle passion des familles et des peuples pour l'envie de se retrouver et de mener une vie normale en fait.
Comme un pied de nez aux États-Unis, l'Iran a dévoilé lundi son premier avion de combat 100% iranien, un outil de dissuasion pour parvenir à une paix durable, a insisté le président Hassan Rouhani. Le même jour, le géant français Total se désengageait officiellement de tous ses projets en Iran pour ne pas encourir de sanctions américaines. À Téhéran, Siavosh Ghazi.
Le départ du groupe français Total constitue un coup dur pour le gouvernement iranien qui comptait sur le retour des sociétés étrangères après l'accord nucléaire de 2015 pour relancer l'économie du pays. Depuis le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire en mai dernier et le retour des sanctions américaines contre l'Iran, de nombreuses sociétés occidentales ont déjà quitté le pays. La compagnie Total, à la tête d'un consortium avec le groupe chinois CNPC et un groupe iranien, avait signé en 2017 un accord d'un montant de 5 milliards de dollars pour le développement de la phase 11 du champ gazier de Pars du Sud. Le président de Total avait expliqué ces derniers mois qu'il ne pouvait pas rester en Iran à cause des menaces de sanctions agitées par les États-Unis. Normalement, le groupe chinois CNPC doit remplacer Total à la tête du consortium, mais la compagnie chinoise n'a rien annoncé pour l'instant. Les autorités iraniennes, qui ont mené d'intenses négociations avec les pays européens pour contrer les menaces américaines, ne cachent pas leur déception. Il y a quelques jours, le chef de la diplomatie iranienne a critiqué à demi-mot les responsables européens en affirmant que de simples déclarations n'étaient pas suffisantes et qu'ils devaient prendre des mesures concrètes contre les sanctions américaines afin de sauver l'accord nucléaire.
Fabrice Dalméda, est-ce que les États-Unis ne sont pas en train de pousser l'Iran dans les bras de la Chine ?
Il y a ce risque, effectivement. C'est le deuxième pari de Trump. Hein. Le pari de Trump, c'est celui qui va faire basculer la Corée du Nord du bon côté et qui va faire tomber le régime des Mollahs à force de contraintes économiques. C'est ça sa stratégie. Donc c'est pour ça qu'il dénonce l'accord et qu'il augmente les sanctions qui existent, rappelons-le. Hein. Depuis 1979, il y a eu les premières sanctions prises contre l'Iran au moment de l'attaque de l'ambassade. Hein. Je dis ça parce que faut se rendre compte ce que ça signifie en termes historiques. C'est un gros bloc. Le risque, c'est de les pousser vers la Chine, mais c'est surtout le risque de renforcer les conservateurs en Iran même, parce que, au fond, le pari d'Obama, c'était de dire on ouvre, on fait un accord, certes à minima, mais ça permet de décrisper la société iranienne, de faire rentrer de l'économie et à partir de là, de menacer les bases du régime idéologique. Lui, ce que fait Trump, c'est qu'il renforce les bases idéologiques du régime. En faisant quoi ? En disant les grands pays capitalistes, matérialistes, etc., sont contre nous, donc il faut un sursaut patriotique, donc on est à nouveau cerné, donc il faut à nouveau se renforcer militairement, développer des avions de chasse, et donc fatalement redévelopper notre nucléaire. Donc moi je ne crois pas, lui il est persuadé, Trump, que le régime est fragile et qu'il va s'écrouler dans quelques mois, je crois que c'est un pari très très hasardeux, et qui au contraire risque de se retourner contre lui, parce que il est vraisemblable que les durs du régime vont continuer à tenir, et peut-être plus fermement encore.
Une semaine d'actualité.
Alors, direction l'Amérique latine à présent avec l'exode des Vénézuéliens qui tourne à la crise migratoire dans la région. 2 300 000 personnes ont déjà quitté un Venezuela plongé dans le chaos économique. La dévaluation de 96% lundi du bolivar souverain, c'est le nouveau nom de la monnaie, n'a eu aucun effet sur les candidats à l'exil. L'immense majorité passe par la Colombie, mais l'Équateur et le Pérou exigent désormais qu'ils aient un passeport pour les laisser entrer. Résultat, le principal point de passage entre la Colombie et l'Équateur, le pont de Rumichaca, prend des allures de camp de migrants et la colère monte. Le reportage de Marie-Ève Deteuf.
Le bruit des roues sur l'asphalte, c'est le bruit d'un échec, celui de la révolution bolivarienne. Les Vénézuéliens qui s'exilent par milliers en tirant leurs petites valises ne fuient pas la guerre, ils fuient l'hyperinflation et la faim. À la frontière entre la Colombie et l'Équateur, comme partout ailleurs, les migrants vénézuéliens sont désormais perçus comme un problème. Depuis 3 jours, ils doivent avoir un passeport pour pouvoir entrer en Équateur.
C'est injuste. N'importe qui ne soit pas vénézuélien passe ici la frontière avec sa carte d'identité. Un Colombien qui arrive la montre et il passe. Personne ne lui demande de montrer ses papiers, ni son passeport, ni rien. Il n'y a que les Vénézuéliens qui sont traités comme nous le sommes. Et le pire, c'est que le Venezuela a longtemps ouvert ses portes à tout le monde, à tous les pays.
Grand producteur de pétrole, le Venezuela était un temps le pays le plus développé d'Amérique du Sud.
Nous sommes combien de millions de Vénézuéliens à être partis alors que notre pays a tant de richesses? Nous avons du pétrole, nous avons de l'or, des diamants, du fer, du bronze, du charbon. Nous avons de tout pour être une puissance. Et regardez où nous sommes maintenant. On nous fait sentir que nous sommes des voleurs. On nous traite comme des déchets, comme des riens. Nous sommes devenus des rats vénézuéliens.
Difficile d'être migrant, même dans cette Amérique latine qui partout, sauf au Brésil, parle l'espagnol et qui partout pratique la même religion.
Fabrice Almeida, plus de 2 millions d'habitants fuient le Venezuela et le président Nicolas Maduro ne semble pas perturbé.
C'est terrible là, ce qu'on vient d'entendre, parce que moi ça me rappelle, je sais pas si vous vous souvenez, c'est Cuba. Cuba, pareil, espoir d'une révolution et nouveau régime, le régime castriste qui s'installe dans les années 60. On croit qu'on va moderniser le pays, on a des grands mots d'ordre, etc. C'était un peu la même chose avec Chavez. Il y avait cette idée qu'on allait transformer, chasser les gringos, mettre en place un nouveau régime, etc. Et à l'arrivée, dans les deux cas, une catastrophe qui est telle que la seule solution pour ces États, au fond, consiste à mettre à la porte la population de leur pays. Rappelez-vous, Cuba, dans les années 70 et 80, ouvrait les portes en chassant de la population pour les envoyer sur les côtes de Floride, et ils traversaient avec des embarcations de fortune, comme ça ils se retrouvaient à risquer leur vie. Même chose aujourd'hui, sauf que c'est par la terre, par la route, entre le Venezuela et ses voisins. Et moi je trouve ça complètement délirant que ces régimes idéologiques, encore aujourd'hui au début du 21e siècle, créent des situations aussi chaotiques. Je veux dire, quand on pense à ce que c'est que le monde aujourd'hui, c'est un espace connu, fermé, etc. Voir encore des escrocs, parce que je vois pas d'autres moyens de les appeler. Si je compare à Cuba, c'est à dessein, hein, parce qu'on voit qu'aujourd'hui Cuba adopte une nouvelle constitution qui reconnaît la propriété privée, qui revient en quelque sorte aux fondamentaux du travail humain en quelque sorte. Alors on peut le regretter, se dire que ce serait mieux d'avoir un peu plus de solidarité, etc., etc. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais n'empêche que ces régimes idéologiques ont été d'abord des criminels pour leur propre population.
On va revenir à Donald Trump et à ce mardi noir qu'a vécu le président américain. Paul Manafort, son ex-directeur de campagne, a été jugé coupable de fraude fiscale et bancaire. Il risque la prison à vie. Et plus grave pour la Maison-Blanche, Michael Cohen, l'ancien avocat personnel du président américain, a reconnu devant la justice avoir acheté sur ordre du candidat Trump le silence de deux de ses maîtresses présumées. À Washington, Anne Corpet.
Michael Cohen se présentait comme le pitbull de Donald Trump. Il expliquait être là pour régler ses problèmes. Mais l'ancien avocat personnel du président risque désormais de devenir la source des plus importants ennuis de l'hôte de la Maison-Blanche. Dans son plaidé coupable, Michael Cohen a assuré avoir versé 130 et 150 000 dollars à deux femmes pour acheter leur silence sur des liaisons supposées avec Donald Trump à la demande de celui-ci et dans l'intention d'influencer les élections. Une déclaration qui sous-entend que le président a commis un délit. Michael Avenatti est l'avocat de Stormy Daniels, l'une de ses deux femmes.
Le président avait déclaré à bord d'Air Force One qu'il ignorait tout du paiement de ces 130 000 dollars. Mais nous savons désormais la vérité grâce à Michael Cohen. Et nous pouvons affirmer que le président des États-Unis a menti au peuple américain alors qu'il se trouvait à bord de l'avion du peuple.
Michael Cohen pourrait être tenté de coopérer pleinement avec la justice pour réduire les peines de prison qui le menacent. Il s'est résolu à dire la vérité au sujet de Donald Trump, a assuré son avocat, avant d'interroger « Si ces versements constituent un crime pour mon client, pourquoi ne constituerait-il pas un crime pour Donald Trump ?»
Fabrice Delmeda, est-ce que ces déclarations de Michael Cohen pourraient conduire à une procédure d'impeachment à l'encontre de Donald Trump?
Moi, j'y crois pas. Je pense qu'on agite cette idée depuis le début, mais qu'en réalité, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de groupe pour ça. Les républicains restent majoritaires. Il est peu vraisemblable qu'avec les midterms, il y ait une majorité démocrate qui se dégage. Donc, je n'y crois absolument pas qu'il y aura un impeachment. En revanche, ce qui est drôle, c'est qu'il y a deux minutes, j'ai critiqué les régimes idéologiques et que là, je me retrouve face à un régime qui est censé ne pas l'être, mais où on voit que il faut quand même avoir un guide éthique, moral et politique, parce que sinon, effectivement, c'est au fond le degré zéro de la politique, c'est-à-dire la corruption, l'achat de voix, l'achat de campagne, le mensonge permanent. Et donc là, ça pose quand même des problèmes et on le voit tellement quotidiennement dans les régimes africains qu'on critique, et le voir dans le régime américain de la même manière, je trouve que ça a quelque chose d'assez pénible.
Mais est-ce que le camp républicain ne pourrait pas commencer à se dire c'est trop, puisque on a vu Donald Trump, après les révélations donc de Michael Cohen, critiquer son propre ministre de la Justice, Jeff Sessions, l'accusant d'incompétence, et Jeff Sessions l'a remis en place en disant que c'est pas la politique qui devait se mêler de la justice.
Oui, mais le problème, c'est que pour qu'il y ait une mesure d'impeachment, ça suppose que le parti décide de lâcher son candidat. Donc ça suppose qu'il ait une alternative. Or là, je crois pas qu'ils aient d'alternative, et je crois pas qu'ils prennent le risque aussi près des élections de se sacrifier. Et après les élections, je pense qu'ils seront tournés vers la présidentielle, vers le second tour, et je pense que le même problème se reposera, c'est-à-dire qu'à nouveau le leadership de Trump est nécessaire aux républicains pour l'emporter. Donc moi, je pense que la discipline de parti va jouer.
Une semaine d'actualité. Chantal Leroux.
Nous sommes toujours avec l'historien Fabrice Delmeda, qui consacre un Que sais-je à Nelson Mandela. Est-ce qu'on peut dire qu'il a fallu attendre 1963 et l'ouverture du procès de Rivonia dans la banlieue de Johannesburg pour que l'opinion publique internationale se réveille enfin et prenne conscience du sort infligé aux Noirs en Afrique du Sud?
Il y avait un premier réveil en 1960, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le moment justement où Lutuli obtient une reconnaissance international. Et puis, il y avait eu quand même des tentatives de voyage à l'étranger de l'ANC pour sensibiliser les pays africains nouvellement indépendants, et puis aussi les pays européens. Donc, il y avait quelque chose. Mais c'est vrai que ce procès, il est fascinant, parce que, rappelez-vous, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi le moment où il y a les grands procès dans les systèmes communistes. Donc, la justice devient un lieu d'observation des régimes politiques. Et ce que réussit Mandela, c'est un peu, la comparaison va sûrement scandaliser certains, mais c'est un peu ce qu'a réussi Jacques Vergès dans les grands procès de la guerre d'Algérie. C'est montrer en quelque sorte l'iniquité d'un système, le dysfonctionnement d'un système, à travers l'impossible neutralité de sa justice. Et ça, c'est très fort. C'est pour ça que le discours de Rivonia est resté.
Il
est
prêt. Un discours de 4 heures?
Oh, mais c'est surtout la chute qu'on retient. C'est ces derniers mots. Cette cause de la liberté des Noirs en Afrique et de l'égalité entre Noirs et Blancs en Afrique, ils demandent juste l'égalité, hein. Ils demandent pas un statut de supériorité. Ils demandent l'égalité pour tous les Sud-Africains, y compris les Métis, les Indiens, les Chinois qui y sont, les Malabars, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui viennent de Malaisie. Et donc eux, ils réclament ça, et ils disent je suis prêt à mourir pour ça. Et ils disent ça dans un tribunal dont on sait très bien que il risque la peine de mort et que sans doute elle est demandée par le procureur. Et le procureur qui, il faut le rappeler, hein, c'est très drôle de rappeler ça, dans les accusés du procès de Rivonia, il y a des juifs, et le procureur est un juif qui soutient ce système raciste dont l'un des dirigeants avait été arrêté pendant la Deuxième Guerre mondiale pour sympathie avec le régime d'Adolf Hitler. Donc vous voyez qu'on a quand même des paradoxes de l'histoire et qui sont révélés par ce procès.
Alors Mandela et ses camarades sont condamnés à la prison à vie, mais pour eux, c'est une victoire.
C'est, bah oui, attendez,
Denis, non,
pour faire le livre, j'avais rencontré Denis Goldberg, il est un des accusés blancs du procès, et Denis Goldberg, quand je lui dis, mais qu'est-ce que vous pensiez, vous, qui allait se passer, il dit, bah, ils allaient nous pendre. On était sûr qu'ils allaient nous pendre, et tout d'un coup, les mecs, on leur dit, vous allez survivre. Donc, c'est un peu un miracle. Donc, effectivement, c'est une victoire et un miracle.
Et alors, est-ce que c'est grâce aux artistes que Mandela est devenu un héros planétaire? Je pense au groupe The Specials en 1984 et à leur tube Nelson Mandela. Fabrice.
j'adore. Je pense que cette musique-là, en fait, c'est un transfert de génération. C'est-à-dire qu'il y avait les gens qui étaient antiracistes depuis longtemps, des années 40, 50, 60. Et puis, dans le début des années 80, tout d'un coup, la cause antiraciste devient quelque chose des jeunes. Et c'est grâce à la musique, c'est grâce à Jerry Dammers.
RFI.
On va continuer à dérouler le fil de la semaine avec la disparition de Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, prix Nobel de la paix en 2001. C'était un samedi dernier en Suisse, à l'âge de 80 ans. Le diplomate ghanéen aura travaillé 40 ans à l'ONU, dont 10 au poste de secrétaire général de l'organisation. Inlassable pèlerin de la paix, Kofi Annan gardera comme une cicatrice l'échec de la communauté internationale lors du génocide de 94 au Rwanda. Clémentine Pavlovski.
Le génocide des Tutsis est probablement l'épisode le plus sombre de sa carrière. Kofi Annan est alors âgé de 56 ans. Il occupe le poste de secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Charles Onana, journaliste d'investigation, auteur du livre « Les secrets du génocide rwandais ».
Sur le plan diplomatique et sur le plan politique, il était informé de tout ce qui se passait sur le terrain, mais sur le plan décisionnaire, je pense qu'une bonne partie des décisions a été prise plutôt par le secrétaire général qui était à l'époque Boutros-Boutros-Ghali.
L'incapacité de la communauté internationale à empêcher le génocide rwandais marquera à jamais Kofi Annan. À plusieurs reprises, le diplomate ghanéen exprimera publiquement ses regrets.
C'était un échec pour nous tous. C'était un échec collectif. Nous avons tous échoué au Rwanda. Il y a eu un manque de volonté politique et non pas un manque d'information.
Ces mots, Kofi Annan les prononce lors d'une conférence de presse au Kenya en 1998. Il vient d'être nommé un an plus tôt au poste de secrétaire général des Nations Unies. André Guichawa, professeur spécialiste des Grands Lacs.
C'est toujours apparu comme une sorte de mea culpa institutionnel, personnel sincère, certainement. Mais bon, le mea culpa apparaît, je dirais, bien faible pour tous ceux qui ont eu à supporter les conséquences de cette tragédie rwandaise.
Une tragédie qui a coûté la vie à plus de 800 000 personnes entre avril et juillet 1994.
Fabrice Dalméda, qu'est-ce que vous retenez, vous, de Kofi Annan ?
C'est vrai qu'il y a deux. La chose évidente, d'abord, le premier noir à avoir occupé ce poste de secrétaire général des Nations Unies. Ça, c'était quelque chose d'impressionnant. C'était pas le premier africain, puisqu'il y avait Boutros-Ghali, voilà, l'Égyptien, qui était venu avant lui. Donc c'est amusant, d'ailleurs, d'avoir cette succession entre les deux. Et puis, quand même, ce côté d'un homme de toutes les cultures, et j'allais dire de toutes les langues, parce qu'il en parlait beaucoup. Et je suis toujours impressionné comme ça quand on voit une personnalité qui est capable de s'exprimer en français, en anglais, en espagnol, qui vient et qui parle au cœur. Et c'était ça qui était très frappant avec lui, c'est qu'il y avait, c'est pas seulement la mesure du diplomate, mais il y avait le sens des hommes. Et ça, c'était très important. Et ce que l'extrait que vous avez passé manifeste bien, c'était justement cette attention à la destruction humaine que suppose la guerre et que suppose donc avec les guerres, les génocides souvent qui les ont accompagnés, avec ce paradoxe de ce génocide du Rwanda, qui intervient après la fin de la guerre froide. Donc on aurait pu penser, on était encore dans les illusions, vous vous souvenez peut-être, hein, on parlait du nouvel ordre international, on disait que désormais on allait avoir un ordre reposant sur le droit, on avait attaqué l'Irak en 1991 pour ça, derrière une coalition admise et reconnue par l'ONU, et derrière, ben, on voit ce terrible génocide et les guerres qui reprennent. Donc ce sens de l'humanité, c'est ça qui est pour moi fondamental dans ces postes-là, sachant que c'est un fonctionnaire public international et qu'il a su garder ce sens de la présence des femmes et des hommes.
Sept jours dans le monde.
Alors, il y a une autre région du monde où l'ONU s'est montrée terriblement impuissante. C'est le Proche-Orient et la Syrie en particulier, où le chef du groupe État islamique est sorti d'un an de silence cette semaine. Dans un message diffusé sur Telegram, une application de messagerie sécurisée, Abou Bakr al-Baghdadi a appelé ses partisans à poursuivre le djihad. À Beyrouth, Paul Khalife.
C'est la première preuve de vie donnée par le calife autoproclamé en près d'un an. D'une durée de 55 minutes, le message diffusé à l'occasion de la fête musulmane d'Al-Adha est adressé aux partisans du groupe État islamique. Abou Bakr el-Baghdadi appelle à la poursuite du djihad, à la patience et promet la victoire. Ceux qui oublient leur religion et leur certitude dans la promesse du Créateur s'effondrent et tombent. Ceux qui s'y tiennent sont fiers et victorieux, dit-il. Selon lui, la défaite ou la victoire ne se mesure pas par la perte d'une ville, la suprématie aérienne, les missiles balistiques ou les bombes intelligentes en possession des ennemis. Ces propos qui se veulent rassurants interviennent alors que le groupe État islamique, qui contrôlait en 2015 les deux tiers de l'Irak et la moitié de la Syrie, n'est plus présent aujourd'hui que dans des poches désertiques ou à travers des cellules dormantes. Cette semaine, les djihadistes ont encore été chassés par l'armée syrienne de l'un de leurs derniers bastions dans le désert, près de la province méridionale de Souaïda. Au nord-est du pays, les milices kurdes resserrent l'étau autour des dernières localités où ils sont encore présents dans la vallée de l'Euphrate. Donné pour mort à plusieurs reprises, Abou Bakr el-Baghdadi serait réfugié dans une zone frontalière entre la Syrie et l'Irak.
Fabrice Dalméda, selon Moscou, les forces de Bachar el-Assad contrôleraient désormais 96% du territoire syrien contre 8% avant l'intervention militaire russe. Bachar el-Assad a gagné la guerre ?
Bachar el-Assad a gagné la guerre avec le soutien de la Russie, avec le soutien implicite quand même d'une partie du monde occidental, faut quand même le reconnaître, même si on se bouche le nez parfois en le disant. Et au fond, il a été l'élément paradoxal de stabilité locale, ce qui laisse dubitatif. Et la question centrale qui est posée par ce que vous venez de souligner, par ce dernier message de Abou Bakr al-Baghdadi, c'est la question de la détention du territoire, la capacité à maîtriser son territoire. Parce que ce que pose Daesh, c'est aussi bien au Moyen-Orient que Acme en Afrique, dans la zone sahélienne, c'est l'incapacité dans laquelle nous sommes de tenir tous les mètres carrés d'un territoire, et en particulier des États qui ont peu de moyens pour le faire, avec des populations qu'ils refusent à armer, parce qu'à chaque fois qu'on les arme, il y a le risque qu'il y ait une nouvelle opposition qui se mette en place, et donc une nouvelle guérilla. Donc voilà, et donc on se retrouve avec de vastes territoires dans lesquels il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de tenue du territoire, et donc ça permet à ces groupes terroristes de passer d'une zone, de tenir dans les moments difficiles, toujours avec cet espoir de se reformer ailleurs. Et le ailleurs, en l'occurrence, n'est plus la Syrie, mais l'Irak.
Alors, vous parliez d'Acme au Sahel. C'est la dernière otage française détenue dans le monde. Sophie Pétronin, 75 ans, a été enlevée le 24 décembre 2016 à Gao, dans le nord du Mali, où elle s'occupait d'orphelins. Sa famille est amère aujourd'hui, car elle n'a toujours pas été reçue par le président de la République, Emmanuel Macron. Mais elle n'entend pas baisser les bras. C'est ce qu'a expliqué mardi Arnaud Grenouillac, le neveu de Sophie Pétronin, à Jean-Baptiste Marot.
Récemment, dans l'actualité, il suffit de faire un sitting devant le fort de Brégançon pour être reçu par le président, alors que nous, on a respecté la voie hiérarchique et c'est resté sans réponse. Hein. Ça fait plus de 600 jours que ma tante est détenue, elle est en train de mourir à petit feu là-bas. C'est surtout une otage sacrifiée. Ouais. Dans la dernière vidéo, ma tante confirme à mon cousin qu'il peut venir la voir et qu'elle a la parole des ravisseurs, qu'il ne lui sera fait aucun mal. Donc, elle va pas attirer le seul fils qui lui reste en vague étapant pour qu'il lui arrive quelque chose. Elle a beaucoup plus confiance en ses ravisseurs qu'en d'autres personnes qui sont de l'autre côté. Si ma tante venait à nous entendre par radio, il faut qu'elle sache qu'on l'aime fort. Sébastien tient le coup, on le supporte. Tu sais que c'est un battant aussi, Tati, et si tu nous entends, ben on se bat tous pour toi et on va te sortir de là. On y arrivera, même seul, mais on y arrivera. Tu nous connais, tu sais de quoi on est capable et on arrivera à te sortir de là.
Et en réponse à ces critiques du neveu de Sophie Petronin, le Quai d'Orsay s'est dit totalement déterminé à obtenir la libération de Sophie Petronin. Fabrice Dalméda, ça fait maintenant un an et demi que Sophie Petronin est otage au Mali. Le Mali où l'armée française est présente depuis janvier 2013. C'est dire si le territoire malien est loin d'être sous contrôle.
Oui, c'est la même question de la maîtrise du territoire qu'on retrouve. Mais là, c'est vrai que sur ces histoires d'enlèvement... Rappelez-vous Françoise Claustre au Tibesti, hein, au Tchad, avec les rebelles à l'époque. Hissène Habré était rebelle avant plus tard la possibilité de devenir chef d'État. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand on a ces otages, il y a une très grosse difficulté parce que si on en parle d'une certaine manière, on fait monter. Le but des ravisseurs, c'est toute la difficulté. Et très souvent, il y a un niveau intermédiaire entre de la crapulerie, réclamation d'une rançon, et des demandes politiques. Donc c'est toute la difficulté, c'est-à-dire que quand on en parle trop, on leur rend service, quand on n'en parle pas, on rend pas service aux otages, parce que on a besoin de maintenir malgré tout une pression sur les pouvoirs publics pour être sûr que l'action la plus efficace est menée. Donc je comprends la démarche de la famille, et en même temps je comprends le désir des pouvoirs publics de garder le maximum de discrétion pour avoir de la marge de manœuvre là-dessus, et c'est toute la difficulté, en plus avec une femme âgée, avec une santé précaire, donc c'est vraiment des dossiers douloureux, et c'est douloureux de penser que c'est la dernière otage française.
Juste encore un mot sur le Mali. Soumaïla Cissé, qui est arrivée deuxième de la présidentielle, a de nouveau dénoncé des fraudes et refusé jeudi de reconnaître la victoire du président sortant, Ibeka. Il a appelé à la mobilisation pour ce week-end. Il s'appelle Bobi Wine. Ce chanteur et député d'opposition ougandais, porte-parole de la jeunesse, a été arrêté le 14 août, battu et torturé, affirme son avocat et sa famille. Il a été jugé jeudi pour possession illégale d'armes, innocenté, libéré puis incarcéré à nouveau pour trahison. De la chanteuse béninoise Angélique Kidjo au musicien anglais Chris Martin et Damon Albarn, en passant par l'écrivain nigérian Wole Soyinka, une centaine de personnalités dénoncent le traitement infligé à Bobi Wine et réclament une enquête indépendante. Le chanteur ougandais, également populaire à l'étranger, a reçu le soutien d'artistes kényans. Le reportage mercredi à Nairobi de Sébastien Nemeth.
Libérer Bobi Wine, c'est le mantra répété hier soir sur scène avec en fond un graffiti représentant le député musicien et son célèbre béret rouge. Pour George Diritu, l'organisateur, les artistes kényans ne pouvaient pas rester silencieux.
Dans les années 80, notre gouvernement arrêtait les musiciens qui disaient la vérité. Nous ne voulons pas qu'un autre pays subisse la même chose. Nous, artistes, devons défendre l'un des nôtres, mais cela va au-delà de Bobi. Ça pourrait arriver à n'importe quelle personne prenant une position politique.
Chansons, poèmes, discours politiques, chaque participant a diffusé le message dans sa langue artistique, comme Roger, écrivain, choqué par la répression en Ouganda.
Comment une telle chose peut arriver de nos jours aussi ouvertement? Je devais apporter une contribution, même modeste. Nous avons la chance de pouvoir observer la réalité et de la peindre, la chanter, la filmer et toucher le plus grand nombre.
Bobi Wine est connu pour ses critiques du pouvoir ougandais. Hier soir, les reproches venaient de Nairobi. Poétesse et artiste, Rebien en avait après le président Museveni.
Un président doit protéger ses citoyens. Si vous les oppressez parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, alors là, c'est vraiment de la connerie. Museveni pense qu'avec son pouvoir, il peut faire ce qu'il veut. Il se comporte comme un dictateur.
La mobilisation doit se poursuivre à Nairobi. Une manifestation se tiendra aujourd'hui dans le centre-ville pour demander qu'on relâche Bobi Wine. Sébastien Nemeth, Nairobi, RFI.
Fabrice Dalméda, je reviens à votre livre sur Nelson Mandela. Quand il est élu président de la République, président de la Nouvelle-Afrique du Sud, il se convertit très vite à l'économie libérale. Est-ce que, selon vous, il a donné trop de gages à ce moment-là aux institutions financières internationales et à la minorité blanche qui possédait l'argent?
Ben, il fallait qu'il y ait cette conversion, en fait, idéologique, puisqu'on se souvient que l'ANC était proche du Parti communiste, ils étaient pour la collectivisation des moyens de production et la collectivisation des terres, parce qu'ils pensaient que c'était aussi conforme au pouvoir, à la conception traditionnelle de la propriété en Afrique, conception de la propriété clanique. Donc collective. Donc ça leur semblait aller de soi d'être proche du Parti communiste. Et puis il y a ce tournant des années 90 quand même, l'effondrement de l'Union soviétique, l'effondrement de l'Afrique du Sud blanche raciste vient juste après, c'est la même logique. Donc lui il a le sentiment que ben oui, le marché plus la démocratie égale plus de liberté. Donc au lieu de collectiviser, il va plutôt privatiser avec des sociétés et garantir aussi aux blancs une partie de l'économie, parce que il a le sentiment que ce qui s'est passé au Zimbabwe de Robert Mugabe, faut quand même le dire, c'est un effondrement de la production agricole.
Parce que là, donc les terres que possédaient les blancs ont été largement redistribuées voilà. à la population noire et ça a été un échec.
Voilà, il y a eu une incapacité à maintenir les niveaux de production et donc d'exportation, donc l'économie zimbabwéenne est tombée. Donc lui, son idée, c'est qu'il faut à tout prix éviter ça. Donc il veut rassurer la minorité blanche en par le libéralisme, en garantissant le capital, mais en donnant de la place aux noirs, en mettant en place des ouvertures de capitaux de grandes entreprises et en obligeant les conseils d'administration à admettre des Africains à l'intérieur de leurs enceintes dirigeantes. Donc vous voyez, c'est un compromis qui aujourd'hui est remis en cause, hein, faut quand même le dire.
Oui, parce qu'il y a ce débat autour de la réforme agraire en Afrique du Sud, promise par le président Ramaphosa. Il faut rappeler que la minorité blanche, 8% de la population, possède 72% des fermes, contre 4% seulement aux Noirs, qui représentent 80% de la population. Mercredi dernier, Cyril Ramaphosa a confirmé son intention d'exproprier des grands fermiers blancs sans leur verser de compensation, mais les modalités de sa réforme restent floues.
Mais c'est tout le problème qu'on a en Afrique du Sud, c'est-à-dire que pour des visées électorales, il faut donner des gages à la majorité, et notamment à la majorité noire pauvre, donc essayer de leur donner de l'espace et de leur donner de l'espoir et des moyens de vivre mieux. Et de l'autre côté, on sait très bien que le niveau du pays risque de s'effondrer en termes d'investissement si ceux qui détiennent les capitaux aujourd'hui décident de s'enfuir. Donc il y a toute une dialectique à arriver à mener que Mandela a su tenir, même si on peut discuter est-ce qu'il fallait libéraliser autant, moins, etc., etc. Il montre quand même, et à la fin de son mandat, il y a quand même 700 000 personnes, je crois, de plus qui ont un accès direct à l'eau potable en Afrique. Pour l'électricité, je crois que c'est à peu près l'équivalent. Donc il y a quand même eu un élargissement de ceux qui avaient accès à des éléments vitaux pour leur existence quotidienne.
Mais vous racontez en même temps un épisode assez précurseur de la dérive de l'ANC ces dernières années, dérive vers le clientélisme, la corruption qui a sans doute atteint son apogée sous Jacob Zuma. C'est l'affaire des contrats d'armement passés par le gouvernement sud-africain, donc sous la présidence Mandela, auprès d'entreprises européennes.
Oui.
Racontez.
C'est toute la question. Est-ce qu'il y avait besoin d'acheter autant d'armement à la Suède ? Est-ce qu'il y avait besoin d'acheter autant d'armement, notamment en matière d'aviation ? Donc c'est toute la question. On peut penser que sur ces contrats d'armement, là, il y a eu un certain nombre de gens de l'ANC qui ont profité. Alors, est-ce que Mandela lui-même en a profité, comme certains l'ont laissé entendre ? C'est pas si sûr que ça. On a quand même la chance d'avoir vu, en tout cas en grande partie, son testament au moment de sa mort en 2013. Et on sait que c'est un homme riche qui s'éteint, mais c'est un homme riche à l'échelle des droits d'auteur de son livre. C'est-à-dire qu'il a eu un livre, Le long chemin vers la liberté, qui a été un succès mondial. Il a fait d'autres ouvrages qui ont été traduits dans toutes les langues, etc. Donc, il laisse un patrimoine de plusieurs millions de dollars, plusieurs maisons qui vont être partagées, mais il laisse surtout un nom. Moi, c'est ça qui me fascine.
Oui, mais je reviens à cette affaire, parce que le secrétaire d'État à l'environnement de Nelson Mandela, donc c'est le général Bantu Olomisa, va quand même faire les frais de cette affaire pour avoir osé critiquer ses contrats d'armement.
Bah oui, parce qu'il a lâché le système, c'est ça. Enfin, c'est quand même lui-même était l'ancien patron d'un bantoustan. Il est admis dans le gouvernement de l'ANC et au fond, quand c'est un peu une trahison intérieure, c'est-à-dire qu'il et de la même manière.
Oui, mais Mandela va l'exclure du gouvernement et l'exclure de l'ANC.
Bah oui, parce que l'objectif c'est de garder le silence. Donc la brebis galeuse, en quelque sorte celui qui parle, voilà. Là vous avez raison de le souligner, ça montre à quel point aussi Mandela sait être un chef, j'allais dire pas corrompu, mais en tout cas favorisant la corruption dans un gouvernement.
Est-ce que c'était de l'aveuglement? Ou de la naïveté? Est-ce qu'il a fait confiance aux mauvaises personnes?
C'est de la stratégie. Non, moi je pense que c'est de la stratégie. À ce niveau-là, c'est de la stratégie. Il sait ce qui se passe. De la même manière, il sait que sa femme a fait, son ex-femme, Winnie Mandela, à ce moment-là, a fait l'objet de concussions et il préfère couper la branche pour être tranquille. Donc, c'est de la stratégie. Il ne faut pas non plus que l'ANC, arrivant tout juste au pouvoir, elle se retrouve trop fragilisée.
Fabrice, vous avez rencontré pour écrire votre livre plusieurs proches de Nelson Mandela, son petit-fils, vous l'avez dit, ses anciens compagnons de lutte, Ahmed Kathrada, Dennis Goldberg, Marc Maharaj, l'écrivain Nadine Gordimer. Est-ce qu'on sait quel regard portait Mandela sur l'Afrique du Sud avant de mourir? Est-ce qu'il était conscient des espoirs déçus d'une grande partie de la population noire, ou est-ce qu'il était fier d'avoir conduit son pays sur le long chemin vers la liberté, pour paraphraser le titre de son autobiographie?
Et ben, dans Le long chemin vers la liberté, il dit une chose, je crois que c'est resté sa philosophie jusqu'au bout, c'est quand on grimpe une colline, on voit un paysage beaucoup plus large, mais qu'est-ce qu'on aperçoit quand on a grimpé la colline? Que derrière, il y a une autre colline. Et il faut grimper cette autre colline. Et quand on l'a grimpée, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit derrière? Qu'il y a une autre colline. Et ainsi passe l'existence, il y a toujours de nouveaux combats à gagner, de nouvelles collines à gravir. Et je pense qu'il avait le sentiment qu'ils avaient gravi une colline en Afrique du Sud, mais qu'il en restait bien d'autres.
Merci beaucoup Fabrice d'Almeida d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, Nelson Mandela, dans la collection Que sais-je, avec en couverture un magnifique portrait en noir et blanc de l'ancien président sud-africain. Les auditeurs d'Europe 1 vous retrouveront à partir de lundi matin, 6h15, pour une chronique, cette historique. Merci à Sophie Janin qui a réalisé cette émission. Bon week-end à tous. On se quitte avec Bobby Wine, dont on parlait tout à l'heure, Freedom.
This is a message to the government, expressing what's exactly on the people's mind. Wakoye binyikirizo vula mubrafe, na buli chitu malake dembe diafe. Uganda etambula etamavika, chitu seno kutweta miegwanga diafe. Mulimba mutufuga buvinyo na mwe, kalite tuganye marwa na musiko. Na ye kumana kwe wasanga ngata nazari wakati na ye yazala nata. Chingambire muze ya ba mutukako, sabane baze ibane ba mugambeko. Ene songa cha munyo jale meteko kati ekwanga lyo nalye nyamide. Bagambe ya linga demokulase mamuburu kakati ya fuka na imokulise. Bagambe ya li fundamento chenji majizala wakati mujifu deno chenji. Bagamba jesonge za balwanya kati mazibu kakona mwe mukola bilie byabali. Bakusaba nti constitution yawe tojikwata kukuba mwe musigade subiri yawe. I say, we are fighting for freedom. Kampala mokoto mbade jinja. We are fighting for freedom. Kabale lukunjiri malala kaseze. We are fighting for freedom. Solo tichitugum, aruwa liragum. We are fighting for freedom. I say wakiso masaka, wende mijana. We are fighting for freedom. Yo! We are living in a time similar to the one of slave trade. This operation is worse than apartheid. The gun is the master, citizen slave. The ball of Africa is bleeding. Question, what was the purpose of the liberation when we can't have a peaceful transition? What is the purpose of the constitution when the government disrespect the constitution? Where is my freedom of expression when you charge me because of my expression? Look what you're doing to this nation. What are you teaching the future generation? See our leaders become misleaders, and see our mentors become tormentors. Freedom fighters become dictators. They look on the youth and say we are distractors. We are fighting for freedom. Busi amalaba mutukula chotera. We are fighting for freedom. Nebi bakwa chimoroto chadundu. We are fighting for freedom. Badelma sindi kabunkara moja. We are fighting for freedom. Oi machiri andongo koti mundi vujo. We are fighting for freedom. Situke baboi, anjuchi manyinti okununule kwanga chitu kakatako pabana ba Uganda fena. Era manyati botu nulire bichamu nosirikire yogulide munsi yorukwe. Na fea bakulwanira kogwe nosirikira jodio vero tusa.
sadase Jukira chinewe bubera mumyunga wakunganye Ingo bujitu alate inya No matter your age, no matter your sex No matter your religion, no matter your tribe Whether educated or uneducated It's a revelation for the